turning to a beast, walking backwards up the street, flying flags, empty bags, number tags. Everyone looking at me, look at them scumbags. Dissipate, fluctuate, eradicate the fate. Let me fix your smoking gun, I'll give you some time to run.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Soundtrack of My Life. Antoine Pierre est notre invité. Bonjour Antoine.
Bonjour.
On écoutait à l'instant Unfit Wing, extrait de l'album de Fourth Wall, nouveau disque de Nextape, un de vos multiples projets. Comment ça se passe Antoine ?
Super bien, on est en période de sortie d'album, quelques concerts de sortie, etc. Donc ouais, c'est vraiment une chouette période là pour le moment.
Alors vous êtes batteur, on a pu vous entendre au début chez Philippe Catherine. Beaucoup avec Taxi War, ce magnifique projet dans lequel on retrouvait Tom Barman de Deus, Robin Verheyen au saxophone ténor, Nicolas Tays à la contrebasse et vous à la batterie. Et puis il y a tous vos projets, Urbex, Vac et donc Nextape. Quelle est la différence, quelle est la spécificité de chacun de ces projets, Antoine ?
Le premier projet que j'avais, Urbex, c'est vraiment un projet beaucoup plus jazz, en tout cas dans la forme, etc. Vraiment basé sur l'improvisation, avec des compositions plus écrites, etc. Et puis après est venu Nextape, qui est là maintenant, aujourd'hui, un peu une de mes priorités. Et c'est un groupe avec vraiment des musiciens de jazz, mais qui ont envie de faire quelque chose d'autre, quoi. On a envie d'explorer un tronc commun qui est plutôt des musiques comme le rock, etc. Enfin, donc il y a quand même cet attrait à l'improvisation. Et Vague, qui est mon projet vraiment solo batterie électronique. Et là, on est plus vraiment dans la musique électronique, mais il y a quand même de l'improvisation. Donc je pense que le dénominateur commun de ces trois projets, c'est vraiment qu'il y a cette envie d'explorer avec l'improvisation.
Alors, The Fourth Wall, nouvel album de Nextape, vous venez le souligner, c'est vraiment un groupe. Vous pourriez parler un peu des autres membres du groupe, notamment cette magnifique chanteuse qu'on vient d'entendre.
Ouais, donc on est cinq dans ce groupe. Il y a donc cette voix incroyable de Veronika Harsha, qui est une chanteuse hongroise que j'ai rencontrée ici à Bruxelles parce qu'on étudie au conservatoire ensemble. Il y a Lorenzo Di Maio, qui est un collaborateur depuis des années, plutôt dans les projets de jazz, mais qui est un guitariste, pour moi, qui a un cœur de rocker, malgré son extérieur de musicien de jazz. Et puis, on a deux claviéristes, qui sont Jérôme Klein et Cédric Raymond. Et c'est tous les deux des musiciens vraiment multi-instrumentistes qui touchent à n'importe quoi et qui font sonner ça. Enfin, c'est incroyable. J'allais dire c'est n'importe quoi parce que c'est
flippant. Et c'est un travail de création, collectif. Vous écrivez, vous composez ensemble ou comment ça se passe ?
Plus ou moins. Donc, en gros, ça commence plutôt... Moi, j'écris vraiment les bases, on va dire. Donc, je trouve des grooves de batterie, des lignes de basse, des suites d'accords. Parfois, je viens même avec des mélodies. Parfois, ça m'arrive de composer vraiment tout, donc d'arriver avec le texte aussi. Mais globalement, ce qu'on a vraiment aimé faire au fur et à mesure de l'existence du groupe, c'est de vraiment utiliser les maquettes que j'avais commencé à faire. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je les envoie aux autres membres du groupe qui essayent des choses dessus. Donc, par exemple, Lorenzo va essayer voilà, un arpège de guitare ou les deux claviéristes, Jérôme et Cédric, essayent voilà, des nouvelles textures, etc. Puis Véronica vient avec une mélodie et un texte. Et voilà, typiquement sur ce qu'on vient d'entendre, Unfitwing, c'est un morceau vraiment pour moi hybride, dans le sens où je suis venu avec la ligne de basse et vraiment le matériel thématique, je vais dire. Et puis Véronica est venue avec vraiment la mélodie et le texte. Et voilà, ça s'est construit comme ça, quoi.
Alors, il y a des instruments organiques, il y a de l'électro, il y a des influences trip-hop, on peut reconnaître des influences de Radiohead, voire des albums solo de Thom Yorke, on va l'évoquer tout à l'heure. Là, de nouveau, le point commun, le fil rouge, c'est cette notion de groove que vous insufflez dans ce projet.
Ouais, ben, fondamentalement, comme moi je suis batteur, ben, y a d'office...
ce rythme.
Et voilà, c'est ça. Ouais. Donc c'est clair que globalement, dans les projets que je crée, je n'arrive pas à éviter ce côté vraiment groove, quoi. Donc c'est disons que c'est clair que dans la plupart des morceaux, il y a vraiment cette idée qui est là. Mais je dirais surtout le plus important, c'est le côté de rentrer presque en transe avec le reste du projet, quoi. Donc comme on est un groupe, comme je disais, on est tous des musiciens de jazz dans ce groupe, donc on a tous l'habitude de se lancer dans l'inconnu et d'essayer des choses. Ouais. Et donc moi, le plus important, c'est vraiment qu'il y ait quelque chose qui, comme un train, quoi, qui s'arrête pas et qui continue et qui donne envie vraiment d'aller visiter encore plus loin, quoi.
Ouais. Alors moi, il y a une chose qui m'a interpellé quand j'ai écouté cet album, c'est que généralement dans beaucoup d'albums jazz, il y a souvent d'excellents musiciens et parfois on peut tomber dans la démonstration. Ici, j'ai l'impression que vous mettez tous et toutes au service du morceau. C'est des formats, entre guillemets, assez courts, finalement. Vous avez fait très attention à ça.
Ouais, ça, c'est un peu... la particularité de cet album, c'est qu'on a commencé à l'enregistrer en février 2019. Et parce qu'on comptait le sortir en 2020, et puis il s'est passé ce qui s'est passé. Ce qui fait qu'on a passé vraiment du temps à se poser des questions. Comme, en fait, quand la pandémie a éclaté, on n'avait pas fini le disque, et on avait encore quelques sessions prévues. Et on s'est dit, tiens, on va un peu réfléchir, de voir comment on produit l'album, maintenant qu'on a le temps, qu'est-ce qu'on veut vraiment passer comme message dans ce disque. Donc on a vraiment passé du temps à essayer de comprendre... quelle était notre relation par rapport à la musique, si on voulait vraiment en faire un album jazz ou si on voulait vraiment plus assumer le tronc commun qu'on avait, donc qui était vraiment toute cette musique, je dirais UK des années 90, d'aller chercher un peu ce côté-là. Et donc, en fait, par la force des choses, on s'est retrouvé avec des morceaux plutôt format chanson, je dirais. Et on s'est rendu compte que, enfin, dans pas mal de morceaux où on avait mis un peu d'improvisation, on avait mis un solo de guitare par-ci et puis un solo de batterie, on s'est rendu compte que c'était pas vraiment nécessaire, en fait, dans ce cadre-là, et on avait envie d'avoir une espèce d'histoire qui se tient sur 40 minutes, d'avoir vraiment un album.
C'est très équilibré, finalement, entre ces influences années 80, années 90 et le côté improvisation jazz. C'est cette notion d'équilibre qui fait la force, peut-être, de cet album.
Ouais, je pense, clairement. Bah, en fait, il y a un peu ce souci de vouloir faire quelque chose de plus concret, je dirais, d'avoir quelque chose de voilà, ok, ça c'est le morceau tel qu'il est, c'est une chanson avec un refrain et un couplet, etc., et d'avoir vraiment aussi donner une importance au texte et au message qu'on a envie de faire passer. Et puis finalement, bah, il y a quand même des tracks comme ça où tout d'un coup il y a une espèce de moment d'improvisation, mais qui est cadré et puis qui revient à quelque chose. Enfin voilà, en fait, l'idée c'était vraiment d'arriver à canaliser en fait notre énergie. Et donc là, maintenant, l'idée en live, c'est de tout péter, quoi.
De faire exploser tout ça.
Ouais.
Vous connaissez le principe de l'émission. Nous allons dérouler ensemble la bande-son de votre vie, Antoine, en prenant pour balise les chansons, les coups de cœur, les albums qui ont façonné ce parcours. Et on commence par ceci. Thank you. l'immense Miles Davis avec Vicious Brew, qu'il nous pardonne, on a un peu coupé dans le morceau. C'est un extrait live tiré d'un concert enregistré en 1970 à l'île de Wight. Alors ce concert, il est sorti en DVD, en CD, et vous, c'est le DVD qui était une claque pour vous. C'est un de vos profs de batterie qui vous a fait découvrir ce DVD, cet univers.
Ouais, c'est ça. J'avais cours aux Jeunesses Musicales de Liège chez Éric Mainjolbier. Et un jour, j'arrive et il était complètement obnubilé par cette vidéo. Et puis, je suis arrivé derrière lui. Il ne m'a même pas entendu arriver. Et j'ai vu ce live jouer avec Jack DeJohnette à la batterie. Et j'étais aussi sur le cul. Et puis, quand il a remarqué que j'étais derrière lui, il a fait « Oh, pardon, je ne t'avais pas vu ». Et il m'a dit « Ah oui, ce DVD vient de sortir. Enfin, il vient de rentrer à la FNAC. Il faut absolument que tu l'achètes ». Et le premier truc que j'ai fait en sortant du cours, c'est aller à la FNAC et acheter avec mon argent de poche ce DVD. Et je l'ai usé à la corde, quoi. Il a tourné chez moi pendant toute mon adolescence. C'est vraiment un disque qui a été... Enfin, un live en tout cas qui a été vraiment...
Et qu'est-ce qui vous a séduit? C'est le jeu de batterie, c'est l'ensemble, c'est l'île de Wight qui est quand même c'est une notion mythique dans l'histoire du rock et du jazz.
Clairement.
En l'occurrence.
Ouais, ouais. Bah, moi, la batterie, c'est sûr que c'était... Enfin, déjà, le fait... Le son de Jeunette et le groove qui était là, bah, ça m'a complètement... Ça m'a transformé, je pense. Mais il y a aussi vraiment l'esprit de trance qu'il y avait dans ce live et le fait que... Donc j'ai regardé ce DVD. Ce qui était très intéressant, c'est que j'ai pas que écouté, j'ai vraiment regardé ce qui se passait. Et bon, on a, je pense, 6 ou 7 musiciens complètement défoncés hein, sur cette scène, il faut quand même le dire, c'est les années 70. Il y a dans ce groupe des musiciens qui sont devenus des légendes après, hein, Chick Corea, Keith Jarrett, Jack DeJohnette, Dave Holland, Erto Morera, Gary Barth et Miles Davis. Voilà, j'ai dit tout le groupe finalement. Mais, et en fait, ils sont tous dans une espèce de transe. Ils jouent cette musique qui est complètement improvisée avec des tout petits matériaux thématiques devant 600 000 personnes. Et l'attitude de Miles qui est vraiment il est le canaliseur de toute cette énergie. Et en fait, ce que j'ai trouvé dingue dans ce live, et c'est ce qui est après a donné naissance à pour moi, enfin au troisième disque d'Urbex qui était vraiment basé sur ça pour moi, c'est ce côté de signaux qu'il envoyait. Donc en gros, il y a jamais de cue. On voit jamais Miles faire un signe de la main ou regarder un des musiciens et dire toi tu fais ça, tu fais ça. Mais par contre, il dirige le groupe avec la musique d'une manière, c'est exemplaire, quoi.
Ouais, ouais, et puis il est souvent de dos et on a l'impression que les 600 000 personnes ne sont pas là. Ils sont dans leur trip, vraiment.
Ouais, clairement. Bah, en fait, Miles les a emportés dès la première note, quoi. Parce que je crois que Miles joue peut-être à partir de la 50e ou la 55e seconde. Avec une note, il arrive. Et là, c'est l'église au milieu des bœufs, quoi.
Alors, autre gros coup de cœur qui va être déclencheur chez vous, c'est le guitariste américain Pat Metheny et l'album Speaking of No qui était paru en 2002. On va écouter un morceau de cet album, As It Is. Thank you. Metheny avec As It Is sur Soundtrack of My Life, un choix de notre invité Antoine Pierre, un album qui sert de déclic. Et là aussi, c'est pas un album, c'est pas un CD, c'est pas un DVD, c'est un concert Petit Vénère à l'ancienne Belgique. Vous avez quel âge quand vous allez voir ça?
Là, j'avais 10 ans.
10 ans. Et donc, vous allez tout seul?
Non, j'étais avec ma maman.
Okay.
Mais ça, c'est donc chronologiquement, ça s'est passé avant le DVD de Bitches Brew. Ça, c'était vraiment... Enfin, il y a eu toujours du jazz à la maison. Mes parents, mon père est musicien de jazz, Alain Pierre. Et il y a eu toujours de la musique à la maison et particulièrement du jazz. Mais à ce moment-là, je jouotais du saxophone à l'académie. Enfin, c'était pas du tout... je sentais que c'était pas un truc pour moi. Et j'avais pas encore... La musique ne faisait pas vraiment encore partie intégrante de ma vie, je dirais. Et puis... on a été voir ce concert à l'ancienne Belgique et je m'attendais à voir un autre batteur parce qu'il y avait une autre vidéo quand j'étais gosse que je regardais tout le temps du Metheny Group justement avec Paul Wertico. Et la tournée que moi j'étais voir, donc ce concert que j'étais voir à l'ancienne Belgique, c'était déjà avec le nouveau batteur Antonio Sanchez qui est un batteur mexicain fantastique. Et je me rappellerai toujours de la sensation que j'ai eue. Donc il a débarqué sur scène et en fait la première émotion que j'ai eue, c'est de la déception parce que moi, comme enfant...
C'était pas celui de la vidéo.
Oui, c'était pas Paul Wertico avec son cinglé orange et ses cheveux longs tirés en arrière, quoi. Donc, à la place de ça, je vois ce Mexicain bodybuildé qui débarque sur scène et je me dis, ah, c'est quoi cette blague? Et je suis dégoûté et puis il commence à jouer sur le morceau qu'on vient d'entendre parce que c'est le premier morceau qu'il jouait en live. Et j'étais
qui ouvrait l'album aussi.
Ouais. Ah, c'est incroyable. Ouais. Et je me rappelle encore de cette sensation. J'ai été vraiment scotché. Et bon, quand on a 10 ans et qu'on va voir un concert à l'ancienne Belgique, déjà, c'est hyper impressionnant. Puis se prendre une claque comme ça, c'était dingue. Et 2 ans plus tard, je commençais la batterie. Et ça, c'est vraiment le souvenir qui m'a vraiment drivé pour faire ça, quoi.
Alors, vous dites à votre maman, c'est ce que je veux faire, quand vous voyez ce batteur mexicain. Et puis, c'est une formation finalement assez académique au début. Et puis, le virage jazz, il se fait comment?
Ben... Disons que le jazz a toujours été là, comme je disais. Donc, je dirais que pour la batterie, j'ai pas vraiment eu un début académique parce que c'était vraiment le solfège et le saxophone. Ça, c'était vraiment mon début académique et c'est mes
le
premiers contacts.
Était là.
Ouais, voilà. Ouais. Et puis la batterie, mes parents ont eu la brillante idée, au lieu de m'inscrire à l'académie, de me mettre aux jeunesses musicales, à la Rock and Blues School. Et donc, je suivais un peu en parallèle des cours avec Antoine Siri en privé, qui était vraiment qui est toujours d'ailleurs un batteur de la scène jazz en Belgique, et Eric Mainjolbier qui lui m'a vraiment apporté plus les bases vraiment, je sais pas si c'est un mot, mais batteristique, quoi, vraiment oui. Le côté logistique de l'instrument. Et puis c'est très vite quand j'ai... En fait, pour moi, le déclencheur vraiment de « je veux faire de la musique », c'est ça qui va être ma vie, c'est la rencontre avec notamment Igor Geno, avec qui on a formé le Metropolitan Quartet à l'époque. Donc on avait 15-16 ans et on se voyait tous les mercredis pour jouer. On a commencé à avoir des concerts un peu comme ça. Et je me suis dit « waouh, c'est vraiment trop chouette, non seulement de cet esprit de camaraderie, presque de fratrie avec des musiciens, et de pouvoir se retrouver sur scène et partager ce qu'on a travaillé pendant des semaines ». Et voilà, et ça c'est ce que j'essaye de reproduire chaque mois depuis 2008, je pense.
Voilà, alors on va faire un bond dans le temps, on arrive en 2015, le début de cette aventure Taxi Wars. On l'a dit tout à l'heure, Tom Barman, figure emblématique de Deus, Nicola Tace, Robin Verheyen et le petit Liégeois qui rentre dans cette formation. Comment vous rencontrez? Parce qu'on ne connaît pas le début de cette histoire, Taxi Wars.
C'est marrant, c'est même au point où parfois des gens me disent « Ah, tu connais Taxi Wars ?» Et je dis « Ouais, je fais partie du groupe. »« Ah ouais, c'est toi ouais. !» Et alors, c'est marrant parce que parfois, les gens ne font pas du tout la connexion. Comment ça s'est passé? En fait, moi, je jouais beaucoup avec Nicola Tace à l'époque, qui m'a vraiment pris sous son aile, genre très très tôt, quand je suis arrivé au conservatoire, il m'a engagé pour jouer avec lui. Et Robin Verheyen, c'était un saxophoniste à l'époque. Évidemment, quand on avait, je sais pas, moi j'avais 20 ans en 2012, voilà. Et à ce moment-là, Robin était un peu le jeune loup qui avait tout percé, qui était à New York.
Aux États-Unis,
ouais, il vivait à New York, ouais. Et il jouait. Et alors, on était tous là, waouh, t'imagines être engagé par Robin Verheyen, incroyable. Et un jour, je reçois un mail de Robin. Parce que Nick m'avait renseigné à Robin, et il me dit « Ah, est-ce que ça te dit d'essayer de jouer en trio plus un chanteur ?» Tu vois, et moi, je ne sais pas du tout ce que c'est, donc je me retrouve au studio de Deus, en fait, à Anvers, et je n'avais jamais entendu parler, un, de Deus, et deux, de Tom Barman.
Vrai.
Parce que, je te dis, moi, j'étais tellement dans le jazz, et j'avais tellement été élevé à ça, que moi, tu vois, toute cette scène-là, elle m'était complètement passée, tu vois, ailleurs, quoi. Donc, c'était très marrant, parce que j'ai débarqué dans le studio vraiment de rockers, tu vois, avec des cendriers, enfin, tu vois, et des
bières partout.
Mais pas tant que ça, plutôt, je dirais des cendriers et des setlists, des disques d'or et des guitares accrochées au mur, tu vois. Et puis, il y a ce mec qui débarque avec un charisme de dingue.
Incroyable, ouais.
Et je le connaissais pas. Je crois que ça, c'est aussi ce qui a fait qu'on a eu une relation très chouette dès le début, parce qu'il n'y avait pas de... J'ai pas été starstruck par Tom, parce que je le connaissais pas, je savais pas qui c'était. Mais j'ai clairement vu débarquer un gars dans cette salle qui avait un charisme de dingue et qui avait clairement été une figure emblématique déjà de la musique. Donc, dès la première répétition, on a trouvé une alchimie directe avec le groupe, avec le quartet. Et on a, enfin voilà, le reste, c'est les trois albums et les innombrables tournées.
J'ai rencontré Tom Barman pour le premier album de Taxi Voir en 2015. Il m'a raconté la même histoire. Ouais. Donc, vous dites la vérité, voilà. Antoine,
merci.
C'est déjà très bien. Et il m'a dit justement une des forces, il dit, mais Antoine, je ne le connaissais pas, on s'est tous compris. Et alors, je me souviens que sur ce premier album, en tout cas, de Taxi Voir, qui s'appelait Taxi Voir, il avait dit une des règles, c'était... Il ne voulait pas de solo. Mm-hmm. Est-ce que c'est vrai?
Ouais, clairement. En fait, ce qui est très marrant, et je vois que... On a tous fait un pas vers les uns vers les autres.
Ouais, des compromis.
Ouais, des compromis, mais qui ont donné naissance. En fait, ce que je trouve génial dans ce genre de démarche, c'est qu'il y a, on peut jamais prédire à l'avance quel son aura le groupe. Et ça, je trouve ça toujours fantastique et fascinant même. Et donc, quand on s'est retrouvé dans cette salle, moi, j'avais l'intention de jouer le plus jazz possible, évidemment, puisque c'était là d'où je venais et c'était qui j'étais. Et puis, Tom est venu vraiment avec un souhait de dire, les gars, il faut qu'on fasse des bangers, il faut aller au plus efficace possible, etc. Ah ouais, Antoine, il faut que tu joues plus fort, il faut que tu joues plus vite, il faut que tu mettes plus de grosses caisses. Et tout d'un coup, en fait, toutes mes conceptions étaient changées, en fait, quelque part. Et là, il y a vraiment un truc qui s'est construit. Et maintenant, après presque 10 ans, de groupe, je sens que Taxi Wars a vraiment en grande partie forgé mon son aussi.
Oui.
Et je le vois par exemple maintenant en écoutant ce disque de Next Step, je me dis ça, j'aurais jamais imaginé que je puisse faire un groupe comme ça il y a 10 ans, parce qu'il n'y avait pas toute cette envie et toute cette découverte de tout ça.
Alors vous dites que cette expérience a eu une énorme influence sur votre jeu, sur votre conception de la musique. C'est vrai qu'avec les trois albums, il y a eu beaucoup de concerts de Taxi Wars. Et ce qui est vraiment génial, j'imagine, c'est qu'à ce moment-là, vous visitez le circuit jazz qui vous est familier, mais vous allez dans le circuit rock qui vous est moins familier. Mm-hmm. Vous touchez d'autres publics. C'est ça qui donne aussi envie à éclater vos projets personnels par la suite.
Ouais, clairement. En fait, ça, pour moi, ça a été une découverte géniale. C'est effectivement de rencontrer un autre milieu et donc un autre public. Alors, parfois, il y a des...
Les gens sont debout au concert de Taxi Wars.
Ouais,
c'est
déjà,
pas
toujours
le cas en jazz.
Non, clairement. Et en fait, c'est... Mais pour moi, chaque musique doit avoir son contexte aussi. Et ça, c'est pas vraiment un problème. Enfin, je voudrais pas que tous les concerts que je produis soit debout, sinon ça n'aurait pas de sens. Mais c'est vrai qu'il y a une énergie qui est là, qui est différente. C'était très chouette de voir du public qu'on voit plutôt dans les concerts de jazz tout d'un coup aller dans les lieux de rock et
vice versa.
Ouais. Et en fait, le fait d'éclater tout ça et de faire des projets de jazz avec plus d'influences qui viennent d'autres milieux, ça a été vraiment une ouverture. Et c'est chouette aussi de... Enfin, en fait, moi, je me rends compte maintenant que j'ai besoin de ça et que je pourrais plus... J'ai besoin de cette balance, donc je peux pas aller dans un truc à 100%. Enfin, si, j'ai besoin d'aller à 100% dans chaque chose, mais il faut qu'elle soit multipliée, quoi. J'ai trop besoin de cet éclectisme, sinon c'est la déprime.
On écoute Taxi Wars avec Death Ride Through With Snow, tiré du premier album de Taxi Wars en 2015.
things are grooving the wrong names. You gotta stop that, right? And start making it right. You gotta stop that, right? You're on a different ride. Through wet snow. The devil's a wrong, I better sit still. I'm standing too loud, I gotta learn skills. Stop fucking about, I got a free ride. I don't wanna go, I'm gonna see sides. I don't wanna know, I'm gonna meet eyes. The kid when they glow, I'm on a death ride. Few and snow. Yeah.
Après Detroit Rock with Snow de Taxi Road, nous écoutions à l'instant Burn the Witch de Radiohead, tiré de l'album Moon Shaped Pool en 2016. L'album rock préféré de notre invité Antoine Pierre. Grosse influence aussi sur votre projet Next Tape. Expliquez-nous tout ça.
Clairement. La première fois que j'ai écouté Radiohead, c'était quand je vivais avec le guitariste Guillaume Vierset, qui lui est vraiment un immense fan de la scène UK de ces années-là. Et il m'a fait découvrir OK Computer à l'époque et Kid A. Mais à l'époque, j'avais un regard plus analytique sur le truc, parce que j'étais vraiment dans le jazz à fond, et donc je me dis, ah oui, c'est intéressant d'entendre d'autres choses pour la production, mais j'écoutais, je pense, plus comme un scientifique à ce moment-là.
J'ai épluché un peu la production.
Ouais, voilà, j'étais un peu au microscope à me dire, ah tiens, ça me fait penser à ça. Enfin, j'avais plus l'impression de me faire un catalogue d'histoires plutôt que de vraiment triper sur le truc. Et puis en 2016, ce disque est sorti, A Moon Shaped Pool, et j'ai écouté l'album une première fois, et je me dis, ah, ça, c'est un cool album. Et puis, au fur et à mesure, je me rendais compte que je le jouais, et je l'ai écouté des centaines de fois. Et il y a quelques tracks sur ce disque, notamment la première, ou aussi Full Stop, enfin vraiment des morceaux qui ont une grosse influence sur ma musique, je pense, et aussi sur la conception d'un disque, parce que ce disque, je trouve, de la première jusqu'à la dernière track, il y a vraiment une histoire, et c'est marrant comme... À chaque période de ma vie, en fonction de ce que je vis, il y a toujours un morceau que je peux aller pêcher sur ce disque et qui va me faire du bien, quoi.
Mais on peut faire un autre parallèle aussi avec Next Day, votre projet, c'est que Radiohead, là, vraiment, il y a un travail de studio qui est impressionnant sur ses productions, les albums solo de Thom Yorke aussi. Et puis quand on va les voir en live, on se dit, mais ils jouent tout ça en live. Le live est très important pour votre projet Next Day aussi.
Hyper important, hyper essentiel, et même, je dirais, il est à la base même de l'enregistrement du disque, parce qu'on a enregistré le disque en situation live. Donc on n'a pas fait des... On a évidemment à la fin fait des overdubs et de la post-production, etc. J'en rajoutais des cordes à un moment.
Très dur et puis, aussi. Hein.
Évidemment, et de toute façon, je veux dire, c'est ça qui fait la joie aussi du studio, c'est de pouvoir aller plus loin et de... En fait, on a vraiment... La manière dont on a enregistré la musique de Next Tape, c'est vraiment, on s'est retrouvés tous en studio, dans des cabines séparées, mais quand même à jouer tout en live. Et donc, tous les morceaux qu'on entend sur le disque, il n'y a rien qui n'est pas joué en live. Et ça, c'est un truc hyper important pour nous.
Au niveau de l'émotion, c'est important aussi, je pense.
Clairement. Et puis, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des trucs intimes, mais il y a des membres du groupe qui traversaient, parce qu'on a fait des séances de studio genre éparses, donc on a fait 3 jours en mars et puis 4 jours en juillet, et puis on s'est revus à chaque fois à des périodes différentes, et chacun traversait un peu des moments de vie qui étaient soit beaux, soit compliqués, ou les deux, et qui
ça se ressentait.
Et honnêtement, ça se ressent.
Et
d'ailleurs, rien qu'en y pensant, il y a 2-3 morceaux dans ce disque où quelqu'un dans le groupe a vécu un truc assez difficile à ce moment-là. Et en fait, ça a sublimé vraiment. En fait, c'était ce jour-là, on a fait des premières prises et qui sont maintenant sur le disque, quoi. Donc ça, c'est...
Alors, on a un jazzman avec nous, un véritable passionné de musique, donc on en profite parce qu'on va développer notre culture musicale. On a demandé à Antoine de nous choisir son disque de jazz idéal pour chiller. Ouais. Et vous avez sélectionné sans hésitation le Bill Evans Trio. Bill Evans, c'est un grand classique. Un album en particulier, c'est Live at Vanguard. Pourquoi cet album ?
Alors, c'est marrant, j'ai une relation très, très étrange avec ce disque parce que c'est un disque qui a toujours été sur la liste des choses que je voulais écouter pour vraiment forger ma culture. Et je sais pas pour je sais pas quelle raison. Vous savez, parfois il y a des disques qui sont sur l'étagère et qu'on remet toujours un peu à plus tard et on verra bien. Et là, c'était au début du confinement quand on a commencé à se mettre dans cette bulle à faire à manger, tu vois, et prendre plus de temps pour les choses. Et tout d'un coup, ce disque est un peu arrivé dans le fond comme ça. Alors, certaines personnes vont sûrement me tuer à l'écoute de ce que je viens de dire, puisque c'est genre, ah, tu mets Bill Evans sur le plan d'un disque d'ambiance, mais c'est pas du tout le cas. C'est juste que c'est vraiment quelque chose qui a bercé tous ces moments un peu de perte, de confinement, et en fait c'est
quand on se retrouve dans sa bulle.
Exactement. Et en fait, pour moi, c'est non seulement la musique qui est très douce et très basée sur l'interaction et sur vraiment le partage,
très fluide aussi.
Exactement, très fluide. Et en plus, C'est enregistré dans cette salle mythique du Village Vanguard à New York, où j'ai eu la chance d'aller quand même pas mal de fois.
Coltrane a fait des grands disc live aussi.
En fait, il y a plein de disc live qui sont vraiment mythiques et qui ont été enregistrés dans cette pièce. Donc, c'est une pièce qui est vraiment... les murs sont gorgés d'histoire du jazz. Non, c'est 70 personnes, je pense, la capacité. Et en fait, le fait d'entendre ça... C'était aussi un moyen, je pense, à chaque fois qu'il y a les applaudissements, j'ai un peu une sensation de « Ah, tout d'un coup, on se retrouvait plus en bulle de deux, mais on avait quand même un peu quelques personnes avec nous qui étaient aussi les témoins de cette magnifique musique. » Donc voilà.
Eh bien, nous allons chiller et valser même avec le Bill Evans Trio, « Waltz for Debbie », capté au Vanguard à New York en 1961.
dance and I don't know why. I'm not afraid to cry, but that's none of your business. So my friend, good, see it, feel it, eat it, bitter eyes, so I get spit in its face. I wanna leave without a trace, cause I don't wanna die in that race.
C'est possible sur Soundtrack of My Life. Nous sommes toujours avec notre invité Antoine Pierre. Après la douceur chill du Bill Evans Trio, c'était les créatures masquées de Slipknot avec le morceau People Equal Shit. Slipknot qui sera au Grass Pop ce 17 juin. Vous serez au concert de Slipknot ce 17 juin.
Alors malheureusement, je ne suis pas disponible. À chaque fois que j'essaye d'aller voir Slipknot, je ne suis pas disponible.
C'est le groupe de votre adolescence.
Clairement, ouais. C'est un peu inexplicable. Je pense qu'il y a eu un peu un... J'ai pas vraiment fait une crise d'adolescence, mais comme j'ai toujours écouté du jazz depuis que je suis gamin, une fois que je suis tombé sur la scène métal dans ces années-là, dans les années 2000, je suis tombé instantanément amoureux de Iowa, donc le deuxième album de Slipknot. C'était vraiment mon premier contact avec ce groupe. Et bizarrement, je faisais déjà de la batterie, mais la batterie, c'était pas le truc qui me branchait vraiment dans le truc. Enfin, moi, le truc de double pédale que je trouve énormissime, mais ça a pas été un truc où je me suis dit, ah, j'ai envie de faire ça. Enfin, j'avais quand même toujours envie de jouer du jazz sur le côté. Mais ceci dit, c'était vraiment l'énergie, le côté, quand j'écoutais ça, il y avait un espèce d'exutoire, énorme. Genre, le fait d'entendre un gars gueuler comme ça, et en plus, j'ai toujours trouvé ça énorme et musicalement hyper bien fait. Ouais. Les morceaux sont c'est d'une brillance, vraiment, c'est exemplaire.
Et la batterie, vous avez déjà essayé de jouer comme ça ?
Pour le fun, parce que j'aime bien faire marrer mes potes à essayer de faire de la double pédale juste avec un pied. Il y a une technique qu'on appelle le heel toe, donc c'est vraiment de faire talon pointe avec le pied, donc comme si on shotait dans la grosse caisse et qu'on allait récupérer après. Et en fait, il y a moyen avec cette technique-là, pour les batteurs et batteuses qui nous écoutent, essayez ça à la maison. Et en gros, l'idée, c'est d'arriver à faire des doubles coups avec un seul pied. C'est très très marrant et ça provoque des tendinites. À la jambe. Voilà.
Alors que les fans de Slipknot ne m'en veulent pas, mais il y a souvent des rumeurs. Tout est joué en live, vous qui êtes un connaisseur. Parce que c'est impressionnant en live. C'est très précis.
Je crois que pour le studio, de ce que j'ai vu de documentaires qui circulent un peu sur YouTube notamment, je crois qu'ils enregistrent quand même en séparé, genre qu'ils vont d'abord traquer les batteries, les basses. Mais ça, dans cette musique-là, c'est pas spécialement quelque chose qui est, je pense, nécessaire de faire ça dans la même pièce. Par contre, ce qui est incroyable, j'ai malheureusement jamais eu la chance de les voir vraiment en live, mais j'ai regardé plein de vidéos sur le net et les mecs, ils sont, enfin, c'est incroyable quoi. Ils ont vraiment, enfin, techniquement et musicalement, ils sont au top niveau. Enfin, c'est un truc de dingue.
C'est très précis, hein.
C'est un truc de dingue. Ouais. Et puis j'aime aussi beaucoup leur démarche qu'ils avaient à l'époque. C'est marrant parce que j'ai des souvenirs d'avoir lu des bouquins et des biographies sur Corey Taylor, qui est le chanteur et tout ça, et même de, vraiment sur Slipknot, des gens qui s'étaient amusés à écrire des bouquins sur eux. Et il y a quand même une démarche dingue d'arriver dans un système où ils portent des masques et des combinaisons qui peuvent évidemment déranger, etc. Mais en fait, la démarche derrière ça, c'est de briser un peu ce mythe de la personnalité et d'avoir vraiment... En gros, ils pourraient très bien interchanger des gens dans le groupe que personne ne le remarquerait puisqu'ils portent des masques. Et donc, je trouvais ça génial d'avoir un peu cette démarche-là et de continuer ça après, je sais pas, 20 ans d'existence, ouais. Un truc comme ça.
Il y a une vraie communauté dans le métal. Est-ce que dans le jazz, il y a une vraie communauté aussi, ou bien c'est des clans, les puristes, les néos Soyez honnête, Antoine.
Ouais, bah, je pense que chaque musique, chaque milieu apporte son lot de puristes et de plus comment le dire, pour être politiquement correct, de gens un petit peu plus comment dire plus militants, je vais dire. Mais globalement, le jazz, c'est une communauté très forte. C'est aussi un très petit milieu. On voit quand même beaucoup les mêmes têtes. Je parle au sein vraiment des professionnels de la musique, pour le dire comme ça. Mais c'est une communauté très forte et très très chouette, et c'est un monde vraiment génial. Ce que je trouve génial avec le monde du métal, qui est un monde différent, que je connais pas très très bien, mais on a toujours, les gens qui connaissent pas ce monde-là de l'extérieur, ils vont se dire, ouais, ça c'est des gens qui tuent des animaux et qui font des rites sataniques
c'est
chez eux.
C'est les plus gentils.
Mais en fait, en général, c'est les plus gentils, et c'est plutôt eux qui vont se lever dans le bus pour laisser la vieille dame s'asseoir, quoi. Donc, ouais, c'est marrant comme on peut avoir, et en fait, je pense qu'il y a aucun milieu, il doit sûrement y avoir des musiques un peu bizarres, avec des messages un peu bizarres, qui doivent peut-être provoquer des communautés peut-être pas super fréquentables. Mais globalement, je pense que quand on est rassemblé autour d'un courant artistique, quel qu'il soit, c'est quand même toujours bon, quoi. Il y a quelque chose de... Enfin, ce mot communauté, pour moi, c'est un mot important, effectivement. Il y a ce truc de vouloir se rassembler autour de quelque chose qui nous fait vibrer. Et donc, voilà. Et honnêtement, ça, c'est un des... Enfin, j'en profite pour dire qu'en tant que musicien, ça, c'est un des trucs les plus beaux qui me fait venir la larme souvent, c'est de voir... d'être responsable parfois, enfin de se sentir responsable, ouais. Et de participer plutôt,
de
pas d'être responsable,
mais
oui, de participer, ouais. À la création de ces moments-là et de faire en sorte que les gens puissent s'évader et qu'ils puissent vraiment participer à cette communauté avec nous, quoi.
C'est clair. On va parler un peu soundtrack. Il y a eu des grandes BO jazz. Next Step, il y a quand même quelques influences soundtrack. C'est assez c'est un cliché de dire ça, mais c'est souvent très cinématographique. On parle de soundscape.
Ouais, tout à fait.
Chez les puristes. Votre BO préférée, Antoine, ce n'est pas celle d'un film, mais d'un jeu vidéo, Red Dead Redemption, avec un morceau fabuleux de l'artiste soul américain D'Angelo, Unshaken. Qu'est-ce qui vous touche dans cette BO?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, moi, je ne suis pas un grand gamer. C'est juste, j'ai, comme beaucoup de gens, acheté une PlayStation environ le 24 mars 2020, donc une semaine après le début de la pandémie. Et j'ai commencé à jouer à ce jeu qui m'a vraiment pris, qui m'a consommé pas mal de temps, mais qui m'a fait voyager à fond. Et il y a ce moment vraiment dingue de l'histoire qui m'a vraiment pris. Mais bon, je vais pas spoiler ça pour les gens qui auraient envie de se mettre dans le jeu, mais pour remettre un peu de contexte, on est dans le Far West, et il y a vraiment, on suit un personnage, on construit vraiment la vie d'un personnage qui est un espèce de bandit, mais qui est en même temps tiraillé par le côté mauvais du bandit, qui va voler des gens, mais en même temps qui a envie de faire le bien, etc. Et puis tout d'un coup, on se retrouve avec ce morceau. Je savais pas que D'Angelo avait composé ce morceau, mais quand la voix est arrivée, j'ai fait « Oh, D'Angelo !» Et j'ai vraiment eu directement le cœur qui se serre, parce que c'était un moment vraiment épique de l'histoire. Et je ne m'attendais pas à être touché comme ça dans un jeu vidéo. Évidemment, dans un film, on a souvent des moments comme ça où on s'identifie au personnage et où on se met à pleurer parce que voilà, en plus, la musique joue un rôle. Et dans un jeu vidéo, bah, ça me paraissait...
Plus dans l'adrénaline, ouais.
Ouais, c'est ça. Et là, c'était un moment juste tellement bien choisi. Franchement, hats off au créateur d'avoir pensé à ça. Et le morceau en lui-même est... Et c'est une production, je trouve, incroyable. C'est musicalement magnifique, et la voix de D'Angelo là-dessus est juste vibrante à souhait, quoi.
Avant d'écouter D'Angelo, vous avez déjà été approché pour des soundtracks? C'est quelque chose qui vous plairait?
Alors, j'ai été approché J'ai écrit la musique d'un super court métrage de Maxime Pistorio qui s'appelle Green Fit. C'est un court métrage humoristique sur quelqu'un qui rentre gratuitement dans une salle de sport. Et donc, comme on dit, quand c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Voilà, le truc se passe autour de ça. Et donc, il m'a donné comme consigne d'écrire la musique de salle de gym. Et je me suis vraiment bien marré. Pendant 2 mois, j'ai écrit de la musique pour salle de gym et c'était un exercice assez incroyable. Et là, j'ai été approché pour d'autres trucs, mais qui sont pas encore confirmés. Donc,
ça va aller plus loin dans cet univers.
En tout cas, c'est un univers que j'adore et que je trouve... C'était la première fois pour ce court-métrage que je composais avec images à l'écran. Et c'est vrai qu'il y a un truc... Tout d'un coup, on se met au service d'autres choses et c'est hyper intéressant, quoi.
Donc, voilà. Alors, un moment d'émotion maintenant, on va écouter enfin D'Angelo Unshaken, tiré du soundtrack du jeu Red Dead Redemption.
Did I hear a thunder? Did I hear you break? I can't quite remember just what guided me this way. Oh,
stand unshaken. Amidst the crash of the world,
the pines, they often whisper. They whisper what no tongue can tell. He who drinks from the deep water, may he know the depths of the well. Have you seen where that crossroads? Where you been? I once was standing tall, now I feel my back's against the wall. Stand unshaken. Amidst the crash of the world, may I stand unshaken. Amidst the crash of the world. To me, as you once did, but I could not see. And I don't wonder, as a way was sung, were the haunted be haunted by the smoking gun? Oh, stand unshaken. Of a world. May I stand unshaken. Come in, amidst the crash of a world. May I stand unshaken. Come in, amidst the crash of a world.
Nous arrivons tout doucement à la fin de cette émission et c'est la tradition. Nous a demandé, Antoine, de puiser dans votre propre répertoire et tirer le morceau que vous feriez écouter à celle ou celui qui ne vous connaît pas encore. Vous avez choisi le morceau Standing Tall, extrait de ce nouvel album Next Tape. Donc c'est très bien pour le service promo, c'est le nouvel album. Il y a une autre raison, j'imagine.
Ouais, pour moi, c'est un morceau qui représente vraiment un peu toutes les facettes, je dirais, de ma personnalité musicale. Dans le sens où il y a ce côté un peu plus pop expérimental voilà, qui est là avec clairement un vocabulaire et un langage qui est plus emprunté à la pop aussi dans la forme. Mais pour ce morceau, on a invité aussi un saxophoniste américain fantastique.
Ben Wendell.
Ben Wendell, ouais, qui est ouais. un saxophoniste que j'adore et qui a fait une tournée avec Next Tape. Et donc, on a été en studio pour enregistrer ce morceau. Et donc, lui qui vient vraiment... montrer un peu le visage, la facette jazz qu'on peut avoir et qui aussi en plus est quelqu'un qui vient de différents milieux, enfin il vient de la West Coast des États-Unis et il a joué dans pas mal de, il a joué notamment avec Snoop Dogg aussi dans les sections et tout ça, donc c'est quelqu'un qui a un peu aussi touché à ce monde-là et donc on a eu beaucoup de conversations, on a écouté beaucoup de musique ensemble et donc ce morceau-là c'est un chouette token de notre rencontre comme ça, donc ouais, j'avais envie de partager ça parce que je pense que c'est quelque chose qui peut plaire à des gens qui vont être plus attirés par ma facette jazz et d'autres qui vont être plus attirés par ma facette plus rock et pop, voilà.
Alors la tournée Next Tape, après ça il y a d'autres projets.
Donc bah là la grosse sortie qu'on a ici maintenant, la grosse release, c'est l'AB qu'on va faire en double bill avec un, donc ce sera Next Tape en double bill avec un groupe qui s'appelle Edges de Guillaume Verset qui est vraiment super aussi et donc on sera le 17 mai à l'AB. Et après ça on a quelques festivals cet été avec Next Tape. Moi entre temps aussi je joue beaucoup avec mon projet Vague, donc mon projet solo. On aura quelques dates ici en mai et en juin. Et je prépare un disque aussi pour Vague. Donc ça, c'est un peu les trucs pour lesquels je suis pour le moment en tant que leader, quoi.
Donc voilà. Rendez-vous à l'AB. On se quitte avec Standing Tall, extrait de ce nouvel album de Fort Wall. Merci Antoine.
Merci beaucoup.
Et à très vite.
À très vite.
sand and a beeper black stares are we, unknowing his land. Cracking of the ice, the Arctic Circle collides with swoon.